Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et cette semaine, on s'intéresse au secteur de la fintech en Afrique, un segment d'avenir pour l'inclusion financière de la population. On en parle avec le cofondateur de Wafar, une start-up marocaine qui ambitionne à terme de démocratiser le paiement mobile dans le royaume. Il est également président de la toute nouvelle fédération marocaine de la fintech, Ismaël Bargash. Bonjour.
Bonjour.
Alors, de l'avis de tous, l'Afrique est le continent d'avenir pour les sociétés financières qui proposent des solutions innovantes à leurs clients. Néanmoins, lorsqu'on s'intéresse de plus près à l'évolution de la fintech à travers tout le continent, eh bien, on se rend compte que la croissance de la fintech est tirée principalement par quatre marchés que sont le Kenya, le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Première question que j'ai envie de vous poser, Ismaël Bargash, comment expliquez-vous justement cette domination du Big Four et quels sont pour vous, au fond, les principaux freins au développement de la fintech dans les autres marchés ?
Alors, je pense que les chiffres que vous venez de donner se doivent d'être mitigés parce que vous avez des pays dans lesquels qui ne sont pas ces quatre pays là dans lesquels la fintech se développe de manière extrêmement bien. Je prends pour exemple les pays de l'Afrique francophone, donc l'Afrique de l'Ouest, où vous avez une très grosse start-up qui s'appelle Wave, qui fait que vous avez une inclusion financière qui est peut-être plus grande qu'au Nigeria ou qu'en Égypte. Si vous faites un benchmark que vous comparez, les Sénégalais et les Ivoiriens aujourd'hui sont davantage consommateurs de paiement et de transfert via des wallets mobiles que les Égyptiens. Alors que les Égyptiens captent beaucoup plus d'investissements. Donc il y a très certainement des raisons qui sont structurelles à cela, du fait de la taille des populations, de la quantité d'investissement qui a été fait dans la fintech. Vous avez des pays dans lesquels, qui ne font pas partie de ces quatre Big Four et dans lesquels les choses se développent plutôt bien et qui arrivent à driver.
Comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire en l'occurrence.
Comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et comme on le disait, comme on l'a déjà dit lors de discussions plus informelles, c'est un secteur qui, par essence, est un secteur d'exception statistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour réussir à faire ce genre de choses, vous avez en général le concept de « winner takes it all ». C'est-à-dire que vous avez une toute petite start-up qui grandira rapidement et qui se retrouve dans la configuration où elle est en mesure de lever assez d'argent pour continuer à grossir encore plus vite et donc d'arriver à un état de saturation d'un marché. C'est le cas par exemple de Wave. Wave aujourd'hui, c'est une entreprise qui va réussir à délivrer des services financiers au Sénégal pour un Sénégalais sur deux quotidiennement. Quotidiennement, vous avez un Sénégalais sur deux qui va utiliser Wave pour payer ou pour transférer de l'argent.
Ce n'est pas le cas, par exemple, on prend l'exemple du Maroc, où ce type de solution, même si on sait donc dans le contexte marocain, et vu le niveau d'inclusion financière très bas de la population, a toutes les chances de réussir, mais on constate effectivement que ce type de solution ne prospère pas sur le marché national. Pourquoi, selon vous ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que pour réussir à faire que ce genre de choses décolle, vous avez besoin de créer ce qu'on appelle un effet de marketplace, un effet de réseau dans une marketplace. Concrètement, une marketplace, c'est quand vous avez deux côtés. Vous avez d'un côté les fournisseurs d'un service et de l'autre côté les consommateurs d'un service. Par exemple, Uber, vous avez les chauffeurs d'un côté et les clients de l'autre. Airbnb, vous avez les locataires d'appartements d'un côté, les clients de l'autre. Facebook, vous avez les publicitaires d'un côté, les consommateurs du wall de Facebook qui consomme de la publicité en même temps. On peut prendre différents exemples comme cela. Systématiquement, dans ce genre d'industrie, la croissance du nombre d'utilisateurs est très intimement liée à la quantité de fournisseurs que vous arrivez à donner. Quand vous regardez le marché du paiement, je pense que l'exercice initial qui se doit d'être fait, c'est celui de dire qu'est-ce qu'on paye au Maroc ? Les Marocains, qu'est-ce qu'ils payent ? Alors quand vous descendez un peu dans les chiffres, vous vous rendez compte que vous avez à peu près 40% de l'argent des Marocains qui va dans les biens de grande distribution, qu'on appelle communément le FMCG. Et vous avez 85% du FMCG qui se fait dans les épiceries, dans les petites épiceries. Donc vous faites un calcul en faisant 40 fois 85, vous vous retrouvez de mémoire, si mes calculs sont bons, à 36%. Et donc vous avez environ 36% des paiements des Marocains, ou de la volumétrie des paiements des Marocains, qui se font chez l'épicier du coin. Question, Est-ce que l'épicier du coin accepte le paiement ?
Non.
Réponse, non. Donc, vous êtes dans une configuration où vous avez créé un moyen de paiement avec lequel les Marocains ne peuvent pas payer. Donc, question, est-ce que les Marocains vont mettre leur argent dans ce moyen de paiement ?
Forcément, non.
Non.
Alors, justement, pour essayer d'avancer, dans ces pays où la fintech a du mal à percer, quels sont, selon vous, les leviers à activer pour que justement un écosystème fintech puisse émerger et puisse permettre à la population de bénéficier de ce type de solution?
Je vais vous donner une réponse à cette question. Maintenant, ce qu'il faut toucher du doigt, c'est que je suis peut-être la personne la plus subjective pour répondre à cette question, parce que c'est ce que moi-même j'essaie de faire tous les jours.
Ça que je vous pose la question.
Il est néanmoins important de souligner que mon avis est totalement subjectif, parce que je vais vous dérouler la stratégie que nous on va essayer de... ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est la supply qui ramène la demande. C'est l'acceptation des paiements qui fera que les gens adopteront le paiement. Donc moi, mon point cardinal dans cette démarche, et je pense la réponse à votre question, c'est de trouver les leviers pour que l'épicier se retrouve acceptant du paiement. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc comment on fait pour que l'épicier soit acceptant du paiement ? L'épicier, c'est un acteur rationnel. Et mon avis, c'est que l'épicier doit y trouver
son compte.
L'épicier doit y trouver un gain. Donc nous, la réponse qu'on apporte à cette question, et c'est là où le pic de subjectivité arrive, c'est que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des programmes de cashback sur les produits que vend l'épicier. Et donc, on a créé un système de fidélité pour que les FMCG puissent vendre d'avant, puissent avoir un service marketing qui leur permette d'augmenter leur part de marché chez l'épicier. Pour eux, c'est extrêmement important, parce que l'épicier, c'est 85-90% de leur vente. Et ce système de fidélité, on le transforme en cashback pour l'épicier et pour le client. Et donc, notre solution, c'est celle qui consiste à dire, en tant qu'épicier, si vous acceptez le paiement, si dans le futur, aujourd'hui on ne le fait pas encore, mais quand on le fera, si vous acceptez les paiements via notre application, vous encaisserez plus que si vous avez vendu en cash. Et pour le client, si vous payez avec notre application, vous paierez moins que si vous avez payé avec le cash.
Ça, effectivement, c'est une explication détaillée d'une stratégie à adopter. Pour le cas de Offer, maintenant, si je...
Je ne vois pas d'autres solutions. Désolé de vous décevoir.
Non, mais si j'essaie d'extrapoler, pas des solutions, mais juste des pistes de réflexion pour améliorer tout un écosystème sur le volet de la réglementation, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation en vigueur est adaptée, adéquate pour le développement et l'émergence des fintechs ? Ou est-ce qu'il y a matière à creuser ?
La réglementation, elle ne peut pas tout. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer une réglementation qui dit il faut que le paiement mobile marche. La réglementation, à la fin de la journée, elle est confrontée à quelque chose qui est plus forte que le régulateur, c'est le marché. Donc la réglementation, ce qu'elle vous dit, c'est y a une circulaire, le paiement mobile, ça marche comme ça, ça ne marche pas comme ça, et vous devez vous y tenir. Là où, à un moment donné, beaucoup de personnes dans l'écosystème se sont dit ce qu'il aurait fallu, c'est que la réglementation soit pensée pour que les établissements de paiement soient par nature, par essence, des entités qui sont ouvertes. Quand on dit ouverte, c'est ouverte aussi avec des systèmes d'information ouvertes pour que monsieur tout le monde puisse venir et consommer des API pour pouvoir déployer un nombre important de services. Ça aurait été l'idéal si ça avait été pensé comme ça. La réalité, c'est qu'on est en train de s'orienter au Maroc vers un marché où, de gré à gré, des startups viennent discuter avec les établissements de paiement et créer des solutions pour que ça puisse fonctionner. Et si je devais en revenir, peut-être, j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas d'autres solutions. En réalité, il y a une macro-solution qui me paraît être une excellente solution, c'est celle où vous vous retrouvez avec une prolifération de fintech qui viennent travailler avec les établissements de paiement ou avec les banques localement. Et donc, vous vous retrouvez avec énormément de start-up, de fintech, qui vont commencer à créer des usages, donc une prolifération des usages, chacune avec une spécialité, et en sachant au préalable que vous en aurez 90% qui vont mourir.
Encore faut-il leur ouvrir les portes et leur permettre d'intégrer un marché et d'essayer d'y survivre.
Quand vous parlez de ce sujet, en règle générale, vous avez un entrepreneur avec une tête bien faite qui va parler avec n'importe quelle banque, la banque ne dit jamais non. Donc le problème, c'est pas d'avoir une banque qui vous dit oui, je veux bien. Le problème, c'est l'étape d'après, c'est l'étape d'exécution. Concrètement, quand vous êtes dans une configuration où vous êtes assis avec le banquier, que vous lui avez expliqué ce que vous voulez faire, que le banquier vous dit je suis d'accord pour le faire, entre le moment où il vous dit je suis d'accord et le moment où vous avez réussi à consommer ces API pour pouvoir déployer votre produit sur le marché, il s'écoule une quantité de temps qui est mortifère pour la start-up. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui est complexe. Aujourd'hui, si on n'a pas de prolifération, c'est parce qu'on a un problème d'exécution quant à la connexion entre les banques et les startups.
Très bien. Alors, quand on parle de la fintech dans les marchés africains, on associe systématiquement, automatiquement la fintech à l'inclusion numérique des populations non bancarisées qui échappent au système financier régulé, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre le développement de cette fintech dans des pays et le niveau d'inclusion de la population? Et plus globalement, qu'a à offrir la fintech pour des pays africains qui souhaitent poursuivre leur projet de développement socio-économique à tous les niveaux?
Alors, ce qui me semble être une excellente réponse à votre question, c'est les cas d'usage chinois, Alipay et WeChat. Pourquoi? D'abord parce que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que l'argent des Chinois se retrouve sur leur wallet. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Une fois que vous avez l'argent de tout le monde sur un wallet, ben en fait, l'inclusion financière devient une commodité. Parce que en fait, tout le cash se transforme en scriptural. Ce scriptural est sur le bilan des banques. Les banques peuvent mieux financer l'économie parce que la quantité de dettes qu'ils peuvent faire est corrélée à la quantité de dépôts qu'ils arrivent à générer. Donc ça, c'est un premier pas. Mais surtout, à côté de ça, vous vous êtes retrouvé dans une configuration où WeChat et Alipay sont les commercialisateurs d'absolument tout en Chine. Ce sont devenus des super.
Absolument.
Donc en fait, vous avez une colonne vertébrale de la consommation des services digitaux qui est l'argent. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas consommer. Mais quand l'argent est en monnaie fiduciaire, en cash, ben en fait, vous ne pouvez pas consommer des services digitaux. Donc en fait, vous avez un point d'entrée dans cette chaîne de valeur qui est le fait que les gens acceptent de déposer leur argent sur le wallet. Et on en revient à la question originelle. Pour qu'ils posent leur argent sur le wallet, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Faut qu'ils puissent payer, pour qu'ils puissent payer.
Voilà. Mais c'est,
la boucle est bouclée.
Mais l'exemple chinois est peut-être très révélateur et devrait en inspirer plus d'un, si j'ose dire.
Absolument. Mais la Chine, ça
aussi. Même si on est dans d'autres ordres de grandeur.
Vous prenez un Chinois urbain, vous prenez un Chinois de manière générale aussi. Je ne connais pas le quotient budgétaire alimentaire chinois, mais je suppose qu'il ne doit pas être loin de celui du Maroc. C'est-à-dire que vous avez probablement aux alentours de 40 à 50% de l'argent des Chinois qui va dans ce qu'ils mangent. Parce que c'est le bas de la pyramide de Maslow. Les gens ne vivent pas s'ils ne mangent pas. Et les gens ne sont pas très riches en Chine, comme pour la majorité d'entre eux, comme au Maroc. Donc, vous êtes dans une configuration où si vous ne pouvez pas payer votre nourriture avec votre argent digital, ben ça ne fonctionne pas. Là où les Chinois ont été très bons, c'est qu'ils ont été extrêmement forts pour faire rentrer du moyen de paiement, notamment avec des sortes de TPE qui pouvaient lire des QR codes, c'est-à-dire que ça a été les premiers qui ont sorti des TPE avec des caméras. Et donc vous présentiez juste votre QR code, le marchand scannait votre QR code et donc le paiement était effectué même quand vous étiez offline. Vous n'aviez pas d'internet, le paiement se faisait sans Visa, sans Mastercard. On est en Chine. Donc c'est eux qui ont inventé le système du mobile payment tel qu'on le connaît aujourd'hui un peu partout. Donc en fait, vous êtes dans une configuration où eux ont été proactifs sur le fait de créer la supply qui pouvait créer la demand. Vous prenez l'exemple indien, qui est extrêmement pertinent à mon sens également. C'est un exemple dans lequel le gouvernement indien a extrêmement, pas régulé, dérégulé le fait de pouvoir faire de la fintech. C'est-à-dire que par essence, il a créé des acteurs réglementés qui étaient ouverts. Il a mis des règles extrêmement radicales. Il me semble que le paiement par le biais du mobile en Inde est obligatoirement, par le biais de la réglementation, gratuit. C'est-à-dire que, alors que quand vous regardez le Maroc, en fait, on a construit le système sur le modèle de Visa et de Mastercard.
Absolument.
Visa, Mastercard, en fait,
qu'on aurait dû être dans la disruption par rapport à ce qui se faisait avant.
Ce qu'il faut dire, c'est que Visa et Mastercard, quand vous payez, vous, consommateur, avec votre carte, le paiement est gratuit, mais le commerçant qui accepte le paiement paye une commission.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, en fait, dès que vous faites ça, ben, en fait, vous enlevez 90% du commerce. Qui sont des petits commerçants et qui ne vont pas vous payer cette commission. La logique est simple. Moi, j'encaisse 110 dirhams si j'encaisse en liquide ou j'encaisse 99,5 si j'encaisse avec un autre moyen de paiement, pourquoi j'encaisserai avec un autre moyen de paiement ?
Deux exemples, l'un de la Chine effectivement très, très parlant et très instructif pour nous Marocains, mais aussi pour tous les pays du continent qui souhaitent et qui ambitionnent de faire de la fintech un véritable moteur du développement et de la croissance. Ismaël Belghache, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la start-up marocaine Wafar et président de la Fédération marocaine de la fintech.